Monsieur Martin Bartek-Komorowski, vous êtes urbaniste et conseiller en aménagement et chef d'équipe au service de l'urbanisme et de la mobilité de la Ville de Montréal et vous êtes très impliqué dans le processus actuel de consultation pour améliorer l'espace public commun. Et vous avez été avec votre équipe responsable de la mise en place d'un plan d'action qui s'appelle Vision Zéro. Et ça, c'est quelque chose qui nous vient d'ailleurs, mais qu'on essaie d'implanter ici. Qu'est-ce que c'est Vision Zéro?
Vision Zéro, c'est un concept de sécurité routière qui est importé de la Suède. C'est en fait, le concept est qu'on devrait avoir zéro blessé grave et mort sur les rues. Et puis, donc, la ville y adhère depuis 2016. Et là, on s'est doté, c'est le deuxième plan d'action triennal qui met en œuvre la Vision Zéro.
Parce que dans la Vision Zéro, je pense qu'il y a comme quatre aspects ou quatre domaines d'intérêt ou quatre façons d'aborder le sujet, si je peux dire. Peut-être pourriez nous les détailler.
Dans notre plan d'action, on a quatre axes d'intervention.
D'accord.
Il y a un premier qui, en fait, traite des facteurs de risque qu'on a observés, des facteurs récurrents. Donc, c'est tous des risques en lien avec des piétons, en fait,
okay.
La sécurité des piétons. Donc, cette fois-ci, c'est en fait le type d'usager de la rue qui est le plus vulnérable, selon nos données. Donc, on l'a priorisé.
Oui.
Ensuite, il y a un deuxième axe qui, en fait, consiste à réduire l'utilisation de l'automobile privée parce que c'est le principal générateur de risque parce que l'automobile expose non seulement la personne qui l'utilise ou les personnes qui occupent le véhicule, mais aussi les autres usagers. Ils génèrent un risque pour les autres usagers de la rue. Donc, il faut en fait réduire ce générateur de risque en incitant les gens de se déplacer par des modes plus sécuritaires.
Autrement, si c'est possible.
Oui.
Exact.
Puis, après, il y a un troisième axe où il s'agit vraiment plus de nos connaissances. Donc, c'est la collecte et l'analyse et la diffusion de données. Donc, c'est pour qu'on comprenne mieux quels sont les facteurs qui mènent à des collisions graves. Et aussi de comprendre l'efficacité des mesures que nous avons mises en place. Et aussi, il y a beaucoup de partenaires qui agissent ensemble avec nous. Donc aussi, il est question de diffuser la connaissance et que tout
D'accord.
le monde, ensemble, qu'on ait une compréhension collective, en fait, de ce qui se passe.
Puis après ça, tenant compte de ces trois aspects-là,
oui.
Là, vous pouvez mettre en place un plan ou une ligne directrice, puis commencer à agir en conséquence.
Oui, c'est ça. Donc, le plan a une quarantaine d'actions qui sont organisées selon... Il y a un quatrième axe qui est aussi la gouvernance de tous les acteurs qui travaillent là-dessus. Donc, il y a des actions dans tous ces quatre axes qui tranquillement, pas vite, sont supposés de nous mener. On s'est donné comme but, la ville s'est donné comme but d'atteindre la Vision Zéro en 2040.
D'accord. C'est certain que quand il y a, d'un point de vue statistique, quand il y a une augmentation rapide ou brusque du nombre de piétons qui sont victimes d'accidents, comme ça a été le cas cet automne, là, si on prend ça d'un point de vue statistique, là, ça adonne que vous faites votre consultation maintenant. Mais l'intention de la ville existait déjà. Là. C'est
oui,
pas comme
mais
quelque
la
chose.
La consultation
qui...
est en lien avec l'accessibilité universelle,
exact.
Pas avec la sécurité routière.
Tout à fait, exact.
Donc, c'est pas directement en lien avec la Vision Zéro.
Oui, c'est ce que je voulais dire. C'est que c'est pas comme on vient de sortir ça de notre chapeau parce qu'il y a eu plusieurs piétons blessés récemment.
Vision Zéro, c'est un processus à long terme.
Exact.
C'est pas une baguette magique non plus. Ça va prendre des années à changer la culture, à changer l'aménagement de la ville et atteindre la Vision Zéro, mais c'est quelque chose qui doit rentrer dans notre DNA.
Oui.
À nous, à tous les acteurs, les policiers, le ministère des Transports, tout le monde qui agit ensemble avec nous, avec la ville, sur le réseau routier.
Oui, c'est comme une façon de concevoir la ville que vous devez, que tous les intervenants doivent partager, ils doivent avoir la même
oui.
façon d'aborder les problèmes, si je peux dire.
Tout à fait.
Et non pas que ce soit une concurrence, comme on voit parfois, entre la fluidité automobile, l'accès au commerce, la vie des piétons, les abords des écoles. Des fois, on a l'impression que tout le monde tire un peu la couverte.
C'est ça. On regarde ça d'une façon très froide et analytique, comme je vous parle de risque.
Oui.
Et on regarde c'est quoi qui génère le risque et c'est comment on peut réduire ce risque-là.
Oui.
Donc, c'est comme ça qu'il faut continuer.
Dans le quotidien, parce que vous recevez chaque année un budget puis des demandes pour des changements dans la configuration urbaine,
oui.
Vous ne pouvez pas répondre à toutes les demandes dans le même week-end et lundi.
C'est certain.
Radio lundi, tout est arrangé. Vous devez considérer les démarches à entreprendre dans le vieux bâti, entre autres.
Bien, ce qu'il faut comprendre, c'est que, et ça, c'est quelque chose que ça fait 3 ans et demi que je travaille à la ville. Et avant, je travaillais chez Vélo Québec, donc j'étais plus
d'accord.
Du côté
cycliste.
Bien, cycliste et aussi dans un organisme qui est revendicateur. Puis j'ai compris, en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que la ville a plus de 4000 kilomètres de rue.
Oh.
Et je pense qu'on a à peu près 6500 kilomètres de trottoirs aussi.
OK.
Et des milliers d'intersections. Je ne connais pas, en fait, le nombre total d'intersections. Je sais qu'il y a à peu près 2300 intersections avec des feux de circulation.
Alors, il y en a beaucoup d'autres, c'est simplement un stop.
C'est beaucoup.
Oui.
Puis on ne peut pas être partout et on ne peut pas agir sur tout d'un coup.
Exact.
Donc, en fait, ce qui est très, très important, c'est de prioriser les interventions et d'agir, de choisir les bons endroits parce qu'on a un pouvoir limité. Annuellement, il y a seulement un nombre limité d'endroits où on peut intervenir.
D'accord. Et vous devez aussi composer avec ce qui existe déjà
oui.
dans le milieu urbain. Si vous voulez changer la configuration d'une intersection, la rendre plus sécuritaire ou plus accessible à tout le monde,
oui.
Ben, chaque intersection est un cas un peu différent de l'autre.
Tout à fait. Mais généralement, ce qu'on essaie de faire, c'est qu'à chaque fois qu'on réaménage un endroit, une rue ou une intersection, ben on essaie de la mettre aux normes, de la mettre à niveau, en fait. Donc, surtout pour l'accessibilité universelle. Donc, lorsqu'on refait l'intersection, on va toujours maintenant profiter de l'occasion pour ajouter, par exemple, des plaques podotactiles pour que les personnes non-voyantes puissent détecter le seuil
oui.
du trottoir. On va des fois réaligner, en fait, les traverses pour les rendre plus courtes.
Oui. Et aussi plus à angle droit pour éviter qu'on
exactement.
Aborde le trottoir avec un angle un peu
ben, l'angle droit ouais. donne la traverse la plus courte.
Exact.
Donc, on essaie de plutôt que d'avoir des longues traverses en diagonale, on aime mieux d'avoir une courte plus
oui.
à l'angle droit. On peut ajouter aussi, ça dépend du cas, mais on va ajouter des fois des side trottoirs. Donc, ça, c'est comme on prolonge le trottoir. Donc, en fait, ça réduit la largeur de la rue, en fait, à l'endroit où le piéton traverse. Puis on a aussi un guide sur les feux piétons.
Oui.
Donc, on a des nouvelles normes maintenant pour la durée, en fait, des feux de la phase piétonne. Donc, on prolonge, en fait. Par rapport à ce qu'on faisait avant, on alloue beaucoup plus de temps aux piétons.
Parce
maintenant.
Que je pense qu'avant, c'était basé sur une vitesse de quoi? 1,2 ou 1,4 mètres seconde.
C'est ça.
Qui est quelqu'un en assez bonne santé, qui marche d'un... Tu sais, qui a pas de problème de mobilité, là, qui n'est pas âgé, qui n'a pas de poussette.
C'est ça. C'est comme une personne adulte moyenne, en
voilà.
fait. Et c'est ça. Et puis je pense qu'on s'est rendu compte que c'est pas adéquat, que la ville doit être faite pour des personnes...
Pour tout le monde.
Pour tout le monde, de tous les âges et de tous les niveaux de capacité aussi. Et ça nous a... Je pense que maintenant, l'approche, c'est qu'on donne plus de temps pour que...
À tout le monde.
À tout le monde, là, pour qu'ils puissent confortablement traverser la rue.
Ben, je vous remercie beaucoup d'être venu nous en parler parce que je pense que des gens parfois aimeraient qu'il y ait une baguette magique, là, puis vous puissiez tout faire tout de suite. Mais il y a des contraintes, puis vous ne pouvez pas changer le vieux bâti. Est-ce que les nouveaux quartiers, eux-mêmes, eux, sont déjà mis à niveau dès le départ?
Oui, bien sûr. Donc, dans les rares cas à Montréal où on, par exemple, récupère des anciens terrains industriels puis
oui.
on prolonge la trame de rue, bien là, d'entrée de jeu, on va faire ça vraiment comme selon les meilleures pratiques.
Du premier coup.
Ou du premier coup, oui.
Oui, tout à fait.
Donc, ce qui est plus difficile, c'est de revoir ce qui est déjà fait.
Exactement, avec les emplacements historiques, souvent des coins de rue qui ne sont pas exactement d'équerre ou des lampadaires qui sont au milieu du trottoir ou des choses comme celle-là.
Exactement. Donc, comme j'ai dit, donc à chaque fois qu'on fait un projet, et souvent maintenant on fait des projets pour des motifs, par exemple, de remplacement de vieux tuyaux ou de vieux égouts, puis là, on profite de cette occasion-là pour
tout refaire. Parfait. Ben, je vous remercie beaucoup, M. Komorowski, d'avoir été avec nous.
Merci beaucoup.
Merci.